Le magazine des Nations Unies.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de votre fidélité à l'émission Le Magazine Nations Unies dont voici les grandes articulations de ce dimanche. Un troisième cas d'Ebola confirmé à Goma, les Nations Unies s'y mettent pour stopper une nouvelle propagation dans cette ville. Dans l'entretemps, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, entend mettre plus de moyens de son budget pour venir à bout de cette épidémie en RDC. Les détails dans cette édition. La fin zéro en RDC d'ici 2030, c'est en fait l'objectif 2 des ODD, objectifs de développement durable. D'ici là, la situation reste alarmante. Le pays compte 49,5% des ménages qui vivent en insécurité alimentaire, selon une étude d'ICRADES, une ONG scientifique. Étude initiée par le gouvernement avec l'appui notamment du PAM, de l'UNICEF et de la FAO. Cette étude a été validée mercredi le 31 juillet dernier en présence du ministre du Plan. Et dans cette édition, deux entretiens à suivre. D'abord, celui de David McLachlan, car coordonnateur humanitaire à l'intérim et représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Ensuite, celui de François Grignon, lui aussi représentant spécial adjoint, mais en charge des opérations dans l'Est. Voilà tout pour le sommet.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Cette édition s'ouvre avec la crise sanitaire, avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Un deuxième cas a été enregistré à Goma. C'était le 30 juillet 2019. À la suite de cette confirmation, les Nations Unies se mobilisent dans tous les aspects d'intervention pour bloquer une nouvelle propagation dans cette ville congolaise de près de 2 millions d'habitants. Honoré Missenga Kalala.
C'est donc l'heure des grandes actions au niveau international avec les Nations Unies. D'un côté, le coordonnateur des interventions d'urgence de l'ONU contre Ebola, David Gressly, et de l'autre, le sous-directeur général de l'OMS pour les interventions d'urgence, le docteur Ibrahima Sossé Fall. Les deux ont affirmé le 31 juillet que la surveillance à tous les points d'entrée et aux points de contrôle s'intensifiait, tout comme l'engagement communautaire, la communication des risques et la recherche active de cas. À propos du deuxième cas d'Ebola confirmé à Goma, les deux personnalités de l'ONU ont déclaré n'avoir aucune preuve que celui-ci pouvait avoir un lien avec le premier. Selon eux, ce deuxième cas concerne un individu qui travaillait dans une mine en Ituri et qui est retourné à Goma le 13 juillet 2019. Mais pour M. Gressly et Dr. Fall, ce nouveau cas à Goma confirme qu'il y a encore à faire plus dans la lutte contre la propagation de cette épidémie, d'où le rappel aux partenaires internationaux et aux donateurs à continuer de fournir l'appui et l'engagement nécessaires pour y mettre rapidement fin.
Notons que le troisième cas a été confirmé le 31 juillet dernier. Dans le même esprit, l'UNICEF veut se donner plus de moyens financiers pour faire face à cette crise complexe de l'épidémie d'Ebola. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il ne devrait pas y avoir un deuxième anniversaire de cette crise. Une fois encore, les détails avec Honoré Missenga Kalala.
L'agence onusienne cherche à tripler son financement dans cette crise de la maladie à virus Ebola en RDC. Il prévoit environ 70 millions de dollars pour les activités de contrôle de l'épidémie de cette maladie, mais aussi d'autres comme la rougeole, 30 millions pour renforcer les capacités des communautés dans les zones à risque, et 70 millions autres pour fournir des services essentiels aux populations locales. Pour Jérôme Pfaffmann, spécialiste de la santé à l'UNICEF, 12 mois après sa déclaration dans l'Est de la RDC, il faut tout faire pour que cette épidémie ne dure encore pendant les 12 prochains mois. À la date du 28 juillet, l'agence a comptabilisé sur les 2671 cas confirmés plus de 700 enfants, dont plus de la moitié d'entre eux âgés de 5 ans.
De la crise sanitaire à la crise alimentaire, il n'y a qu'un pas, selon une étude de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques ICRADES. 49,5% des ménages en RDC vivent en insécurité alimentaire. Or, le pays s'est inscrit dans la dynamique de la fin zéro d'ici 2030. L'objectif 2 des objectifs de développement durable, ODD. D'autres détails encore avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Ces données sont contenues dans un rapport final de la revue stratégique sur l'objectif fin zéro en RDC. Ce document a été mis à sa validation dans un atelier du conseil consultatif sous la présidence du ministre AI du plan, Johan Kefas Mosepele. C'était le mercredi 31 juillet dernier à Kinshasa. Les agences onusiennes telles le PAM, la FAO, l'UNICEF, OTIA, l'OMS, le PNUD et UNFPA notamment y ont été représentées. Selon le représentant de la FAO en RDC, Aristide Ongone Oba, mais la faim continue à progresser dans le monde. Et cette situation menace donc l'objectif fin zéro en 2030, y compris pour la RDC.
En RDC, bien entendu, la même tendance à la hausse est observée. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a presque doublé entre 2017 et 2018. Nous sommes partis de 7,7 millions de personnes en 2017 à 13,1 millions de personnes en 2018.
Pour le professeur Justin Kankouin Dambaye, directeur général du CREDES, l'ONG qui a mené l'étude, la situation de la RDC est préoccupante.
Bon, la situation n'est pas très bonne, elle est préoccupante. Je dois d'abord vous dire que l'étude a duré presque un an. On a parcouru tout le pays, toutes les provinces, et le constat n'est pas très heureux, parce que avoir 49,5% des ménages qui sont en insécurité alimentaire, et avec un niveau de malnutrition qui fait 43% de malnutrition chronique, l'insécurité alimentaire existe. Comment on peut compter une dizaine de provinces sur 26 qui sont en insécurité alimentaire? Donc la situation n'est pas brillante.
Cette insécurité alimentaire est due à plusieurs causes. C'est qu'a expliqué un autre chercheur de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques.
Bon, on explique ça d'abord par le fait que l'agriculture, qui devrait nous fournir l'essentiel de ce que nous mangeons, est en train de décliner pour plusieurs raisons. Mais il y a aussi tous les autres éléments liés à l'insécurité à l'intérieur du pays, aux conflits interethniques, si pas intercommunautaires. Tout ça fait que les gens fuient l'intérieur, sont empêchés de se livrer à leur activité essentielle de l'agriculture.
Pour le ministre intérimaire du plan, citant le président de la République, en dépit de nombreux défis, la RDC peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et même résorber le double du déficit alimentaire mondial, le ministre Mosepele.
Il est vrai qu'au vu des statistiques de ces dernières années, sur la faim et la malnutrition dans le monde et en République démocratique du Congo, les défis à relever sont énormes, mais comme l'a déclaré le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'investiture le 24 janvier 2019, je cite, « Le Congo, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables, peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et même nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial s'il est doté d'un programme alimentaire innovant. » Fin de citation.
Le ministre intérimaire du plan estime donc que la RDC a profité de son énorme potentiel agricole, encore presque non exploité, pour à la fois résoudre le problème de la faim et de la malnutrition, mais aussi et surtout pour la réduction de la pauvreté par la création d'emplois.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Au moins 20 000 déplacés internes à Fizi dans le sud Kivu à la suite des conflits communautaires et autres violences enregistrées dans la région, selon l'administrateur du territoire de Fizi. Le coordonnateur humanitaire par intérim, David McLachlan Carr, y a effectué une visite de terrain du 29 au 31 juillet dernier. Objectif, évaluer la situation humanitaire résultant de ces violences. Notre envoyé spécial dans la région, Jean-Pierre Elali Koko, a rencontré le coordonnateur humanitaire. Suivez plutôt leur entretien.
Monsieur le coordonnateur humanitaire, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous venez d'arriver ici à Fizi. Quel est l'objet de votre visite?
Bon, l'objet de notre visite aujourd'hui, c'est de venir à Fizi, évaluer la situation humanitaire sur le terrain, évaluer les besoins des gens déplacés, mais aussi la communauté touchée par les violences dans ce secteur. Et parler avec l'administration de Fizi aussi pour mieux connaître les besoins de l'administration.
Et justement, les besoins, vous les connaissez après l'échange qui a été fait avec les déplacés. Et quel est le constat que vous faites après avoir visité aussi quelques installations des humanitaires?
Bon, la situation c'est assez grave. On n'a pas exactement les chiffres des nombres de personnes déplacées. Mais il y a beaucoup. Et maintenant, l'administrateur a mentionné un nombre de 200 000 personnes dans tout le territoire, la région ici. Ça, c'est beaucoup. Et vraiment, il y a trop de violence maintenant dans tout ce qui vous. On va travailler avec la MONUSCO pour la protection des civils, mais aussi on va fournir l'assistance pour fournir des abris. La nourriture, les médicaments, eau et assainissement. Et maintenant, on a vu maintenant un projet d'Oxfam.
Justement, concernant les projets d'Oxfam, quelles sont vos impressions après avoir vu le fiche que cette fontaine?
C'est fantastique. Vraiment, parce qu'on dit que l'eau ici vient de 30 km et cette ville ici, de Fizi, n'avait pas commandé l'eau avant. Mmh. Vraiment, c'est de l'eau potable qui vient de la montagne et ça va fournir de l'eau pour presque toute la population de Fizi. Ça, c'est fantastique. Et ce projet a été financé par le Fonds humanitaire des Nations Unies. Mm-hmm. Alors, on se sent très, très fiers d'être alliés avec ce projet aussi.
Quelques 20 000 déplacés internes, c'est quand même colossal. C'est l'urgence qui s'impose. Est-ce que, à votre niveau, en tant que coordonnateur humanitaire, vous avez des actions immédiates à mener en faveur de ces déplacés?
Oui, bien sûr. On est en train de travailler dans Minembwe, Mikenge et ici Fizi avec les partenaires des ONG pour donner une assistance à les personnes déplacées qui sont dans les camps. Ils profitent aussi d'une assistance de part de la MONUSCO qui assure aussi la sécurité de ces gens parce qu'il y a trop d'attaques, c'est trop d'insécurité. Alors, mais on travaille ensemble. C'est comme l'ensemble des agences font des programmes des Nations Unies qui travaillent aussi avec la mission ONUSCO, avec l'administration locale et aussi avec les ONG pour fournir une assistance coordonnée et bien cohérente pour satisfaire comme les besoins des personnes touchées par les conflits.
Monsieur le coordonnateur humanitaire, Radio Capi vous remercie.
Merci beaucoup.
D'autres nouvelles en plus bref, 38 cas de viol enregistrés au cours de 3 derniers mois dans les sites de déplacés à Kalemi dans la province du Tanganyika. Des statistiques fournies par le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, citant le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ces viols ont été commis dans les sites de Kankompa, Kikumbe, Elia et Bukuku, précise OCHA. Le village Amisi, qui héberge également des déplacés, est lui aussi affecté. Selon la même source, 15 mineurs sont comptés parmi les victimes de ces viols. Cette recrudescence des viols serait attribuable à l'effritement des mesures de protection dans les sites des déplacés, estime OCHA. De Tanganyika, rendons-nous maintenant au Sud Kivu avec cette mission conjointe onusienne pendant la semaine. Une délégation conduite par le représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire ad intérim, David McLachlan, car a séjourné dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Minembwe. C'était une mission d'évaluation sur le terrain, quelques jours après l'arrivée, le week-end avant, du premier convoi humanitaire par la voie routière à Minembwe. La MONUSCO, Sud Kivu et Maniema, le HCR, OCHA, le PAM et MSF ont fait partie de cette mission. Enfin, au centre du pays, la section démobilisation, désarmement et réinsertion de la MONUSCO DDRRR a organisé à Kananga, dans la province du Kasaï central, une visite sur le terrain pour le suivi et la sensibilisation des bénéficiaires d'un projet d'appui à la réinsertion socio-économique des ex-miliciens Kamuna Sapu, des jeunes à risque et des femmes vulnérables. Cette visite a eu lieu le 26 juillet 2019 avec l'appui du bâtiment marocain. Le projet a consisté en la réhabilitation du tronçon routier de 25 km du service agricole.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint ad intérim du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations dans l'est de la RDC, François Grignon, qui était en début de la semaine à Beni, au Nord Kivu. C'était sa première visite de travail dans cette région depuis son entrée en fonction. Après l'audience que le maire de Beni lui avait accordée, François Grignon avait répondu aux questions de Radio Capi. Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien du représentant spécial adjoint avec Martial Papimukeba.
Monsieur François Grignon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'arriver à Beni pour la toute première fois depuis votre nomination. À quoi consiste votre visite?
La représentante spéciale du secrétaire général m'a demandé de venir à Beni assez rapidement parce que nous sommes bien sûr inquiets face aux événements des dernières semaines. Et la question de la protection des civils au cœur de notre mandat est une question prioritaire auquel nous devons répondre en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales. Et donc l'objectif de ma visite, tout d'abord bien sûr, c'est d'exprimer ma solidarité et mes condoléances aux familles qui ont été touchées par cette violence. Deuxièmement, c'est de venir revoir avec les autorités, avec mes collègues qui travaillent ici, que ce soit celle de la force, comment nous pouvons nous remettre à retravailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats et obtenir des résultats durables pour une réduction de la violence dans la zone de Beni et pour augmenter la protection des civils.
Quand vous faites allusion à la violence, vous voulez parler des attaques de l'ADF.
Les attaques de l'ADF représentent bien sûr l'une des sources de violence les plus importantes dans la zone, mais ce n'est pas la seule. Je pense qu'il y a aussi des violences qui sont causées par des gens qui prennent la casquette ADF, mais qui sont en fait ont des motifs beaucoup plus uniquement économiques. Et nous devons travailler ensemble pour rétablir l'autorité de l'État, pour apporter la justice, pour que les institutions locales et nationales puissent opérer et progressivement, c'est ce partenariat avec la population civile, avec la société civile qui permettra de stabiliser de façon durable la région.
Vous venez de rencontrer les maires de Beni. Est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez écouté?
Non, écoutez, je crois qu'avec son Excellence le maire, nous partageons la même philosophie. Nous avons échangé de façon tout à fait, je dirais, franche et directe. Le maire a partagé ses préoccupations. J'ai partagé avec lui notre sentiment sur la situation et nous nous rejoignons sur bien des points. Nous devons continuer à favoriser ce partenariat qui permettra de faire changer la situation de façon durable. Donc à ce niveau-là, je dois dire que nous avons vraiment une bonne intelligence, un bon partage de vues.
Beni, c'est aussi l'épidémie à virus Ebola. Beni qui est devenu presque le foyer de l'épidémie. Aujourd'hui, quel sera l'apport de la MONUSCO pour faire face à cette situation?
Bah, écoutez, sur la question, je ne suis pas la personne en charge de la réponse. Donc sur la question de cette réponse, je vous renvoie à mon collègue qui le fait. Mais je peux vous assurer que la MONUSCO vient en appui de cette réponse Ebola à tous les niveaux.
Merci beaucoup.
Voilà, je vous remercie.
Nouvelle de province, la résolution 2463 du Conseil de sécurité expliquait à une centaine de femmes issues des confessions religieuses. Nous sommes à Kalemi dans la province du Tanganyika. C'était le 25 juillet dernier. La section de l'information publique de la MONUSCO en collaboration avec l'ONG Soleil Levant a organisé une conférence d'information sur la résolution 2463 du 31 mars 2019 et portant sur le mandat actuel de la mission onusienne en RDC. Suivez plutôt à ce sujet les dossiers d'Expédie Mwamba Mubi.
La séance d'information sur la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 2463 a regroupé plus d'une centaine de participants, dont 100 femmes et 5 hommes, membres de différentes confessions religieuses de Kalemi. L'audience a suivi une présentation des grandes lignes du mandat avec un accent particulier sur les raisons de la présence de la MONUSCO, le rôle des casques bleus, la notion de protection des civils et la lutte contre les groupes armés qui opèrent dans la région, etc. Ici, la réaction de quelques femmes sur le rôle de la MONUSCO.
Je m'appelle Marine Pala. Après les explications que nous venons d'avoir, nous disons merci au Dieu Tout-Puissant parce que ces gens de la MONUSCO, à un certain moment, nous les avons détestés, croyant que c'était des voleurs. Nous, on s'est posé des questions. Ces gens qu'on nous présentait comme des gens qui maintiennent la paix, nous, on s'est demandé, depuis qu'ils sont là, jamais le Congo n'a retrouvé la paix. À présent, nous comprenons les choses. En réalité, ces gens sont là pour prendre nos doléances et les présenter au gouvernement. Mais le gouvernement reste sourd. Il ne fait rien pour terminer nos souffrances. Eux, ils ne peuvent pas prendre la place du gouvernement.
Le souhait pour les participantes, c'est de voir plus d'engagement de la part de la MONUSCO.
À ces gens de la MONUSCO, nous allons demander une chose. Ne pas avoir peur de notre gouvernement qui les a fait venir pour amener la paix. Qu'ils aient une position claire. Et s'ils constatent une faute commise par le gouvernement, pourquoi la MONUSCO va-t-elle continuer à se taire? Elle doit réveiller le gouvernement pour que nous, population, puissions avoir la paix.
Les femmes se sont intéressées également au travail du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le bataillon indonésien était quant à lui représenté par deux casques bleus féminins. Leur présence a permis de décrire de façon concrète le rôle et le travail de la force de la MONUSCO dans le cadre de la protection des civils et de mettre l'accent sur la participation et la présence des femmes dans la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
À la conférence de presse des Nations Unies du 24 juillet dernier, à Kinshasa, au quartier général de la MONUSCO, une question sur les conflits à Minembwe a été posée. Suivez plutôt cette question, suivie de la réponse de la porte-parole de la mission onusienne, Florence Marshall.
Je me nomme le Petit Bayende, je suis du groupe de presse L'Avenir. J'ai suivi ce que vous avez lu comme rapport sécuritaire au niveau de l'Est de la RDC. Et au sud Kivu, nous avons appris qu'il y avait une forte tension entre la population et des groupes armés au niveau des Fizi. Et selon certaines sources, ce sont des Rwandais qui veulent faire fuir les autochtones pour récupérer la zone de Minembwe. Alors, mais dans votre rapport, je n'ai pas senti un accent particulier là-dessus. Par moment, vous avez seulement effleuré. Pourtant, c'est une situation très sérieuse pour la RDC.
Alors en effet, c'est une situation qui est sérieuse. Et pour vous dire, hier, la représentante spéciale a rencontré ici à Kinshasa le gouverneur de la province du Sud Kivu qui est venu la voir. Évidemment, ils ont évoqué ensemble la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. La MONUSCO, par rapport à Minembwe, est engagée depuis le début en fournissant un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations, notamment un soutien logistique. On a également des équipes civiles qui vont sur le terrain pour essayer de remettre les communautés ensemble, d'initier des activités de dialogue. Donc oui, c'est une situation qui est préoccupante, mais j'ai cru comprendre quand même hier que dans les échanges entre la représentante spéciale et le gouverneur, il semblerait que la tension a quand même fortement diminué ces derniers jours.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Je m'appelle Daniela Talitz, je suis née sous le soleil de la ville de Rome, en Italie. J'ai commencé ma vie de pèlerinage partout dans le monde très jeune. J'ai commencé comme volontaire dans des ONG chez mon pays et j'ai suivi toujours cet intérêt à me mettre au service des autres, même après le mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas facile de concilier une vie à l'étranger, de travail, parfois un peu aussi difficile, avec une vie de famille. J'ai poursuivi mes études initialement en Italie et puis je les ai continuées à l'étranger, fait des études humanitaires et des études de sciences politiques. J'ai étudié des langues aussi parce que je pensais que de toute manière l'intérêt à travailler à l'étranger était lié à la possibilité de pouvoir communiquer avec les gens dans leur langue. Donc j'essayais d'apprendre toutes les langues des pays où je travaillais. C'est pas facile d'apprendre des langues, surtout si c'est des langues très différentes à celles qu'on connaît déjà. Mais les gens apprécient beaucoup. C'est très facile de rentrer en communication.
Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire ici à Kananga aussi, au Kasaï central, où la plupart des gens parlent Chiluba, et qui est une langue très belle, très difficile. C'est très apprécié de leur part de voir que quelqu'un essaye de communiquer, même en faisant des fautes. Je travaille dans le bureau des affaires politiques. J'ai commencé dans la mission au sein de l'équipe électorale, et puis j'ai été déplacée dans le Kasaï central pour suivre les changements politiques en vue de la mise en œuvre de nouvelles élections. J'aime dire que chaque jour, quand j'arrive au bureau, c'est la surprise. On ne sait jamais de quoi on va devoir s'occuper au-delà de ce qu'on a planifié. C'est très important parce que garder la flexibilité dans un endroit qui est en train de reconstruire sa vie normale et de redévelopper des équilibres, soit politiques, soit de vie civique, c'est important de garder la possibilité de s'adapter aux nécessités quotidiennes. Mon travail se centre plutôt sur l'interaction avec tous les partis politiques, les groupes et les mouvements citoyens, bien entendu les autorités gouvernementales et territoriales, la société civile, et je travaille beaucoup avec les forces militaires. Ça aussi c'est très important parce que savoir se mettre en contact, se mettre en relation avec des différentes cultures passe par ce que les différentes cultures ont comme leur structure sociale. J'essaie de garder mon esprit volontaire dans tout ce que je fais, la disponibilité à communiquer avec les autres, la disponibilité à apprendre toujours où je suis et la capacité de lire la réalité, de laisser que la réalité vienne à moi et me parle et me laisse comprendre, me permettre de comprendre ce que je dois faire et comment je vais être le plus utile possible. Avant d'arriver à la MONUSCO, ma vie professionnelle a été caractérisée presque toujours par le volontariat. J'ai commencé comme volontaire, j'ai aussi travaillé comme professionnelle dans des différents endroits, y compris dans les Nations Unies, mais j'ai toujours eu la tendance à retourner à me mettre au service comme volontaire. C'est le cadre qui me permet d'être plus fonctionnelle. Temps libre, bon, moi, j'en ai pas beaucoup en fait. J'aime bien mon travail et j'aime bien considérer que je m'amuse au travail aussi. Je prends mon temps au travail aussi, même lorsque, dans la plupart des cas, c'est très hectique et tout le temps en courant. Mais j'aime bien, je sais pas, préparer mon thé, par exemple, le partager avec quelqu'un, perdre 2 minutes de plus pour lire davantage quelque chose au-delà des documents que je suis en train de lire, écouter de la musique même si je suis en train de travailler. J'aime bien la musique locale, c'est-à-dire j'aime bien découvrir les musiques. Ça répond un peu aussi à mon intérêt sur les langues. En fait, j'aime toutes les musiques, sauf la musique hard. Mais comme j'aime bien voyager, alors là, le voyage aussi, ça se réconcilie beaucoup avec ce travail. Vous savez, la RDC est mon 77e pays. Mon travail a pu se réconcilier beaucoup avec ma passion de voyager. J'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore partager ce que je cuisine avec les amis, avec les gens qui sont capables de l'apprécier. Bon, l'avenir, concept général, c'est continuer mon travail. Voilà, toujours dans le domaine de la coopération internationale et de la facilitation de la paix. Donc oui, un travail politique, un travail social, un travail d'interculture, un travail de diplomatie, de relations. Essayer de trouver la manière d'aider les autorités qui ont à charge un territoire, une population, une communauté, à se mettre en condition de pouvoir s'en occuper. C'est ça qui va engendrer une paix durable. Grazie Radio Capi, siete grandi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous à retenir dans vos agendas pour la semaine qui commence le 9 août au prochain. C'est la journée internationale des populations autochtones. Cette année, la célébration de cette journée sera placée sous la proclamation par les Nations Unies de l'année 2019, l'année de langue autochtone. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Honoré Misenga Kalala était au reportage, à la fois à la coordination et à la réalisation, le tout sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. Moi, c'est Jacques-Yves Molima Aouta, Missoma Pumbadoua qui était à la présentation. Restez à l'écoute de la radio de la paix et prochain rendez-vous dans exactement 7 jours. Sans oublier que tout ça a été mis en onde par Mimi Kindou. Au revoir.